Espace 2.
Aujourd'hui, on vous emmène dans le quartier de Saint-Lazare. On est place du Havre, pile en face de l'entrée de la gare Saint-Lazare. Et si on se tourne à droite, il y a un hôtel et on a rendez-vous, chambre 309, avec notre invité qui nous attend dans sa chambre.
La conversation. La conversation.
Voilà un homme qui croit en l'athéisme, qui a le plaisir d'être épicurien tout autant qu'hédoniste et qui s'est offert la liberté d'être d'inspiration libertaire. Car c'est ainsi, libre, que Michel Onfray a choisi un beau jour, après 20 ans à enseigner dans un lycée technique, de tourner cette longue et lourde page pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire de sa vie. Une existence qui depuis semble se confondre avec celle qu'il a un jour bouleversée pour ne plus jamais le quitter, la philosophie. Une philosophie qui, loin de n'être qu'une matière que l'on apprendrait en théorie scolairement, est à ses yeux rien de moins qu'une manière de vivre, de réfléchir bien entendu, mais aussi de se comporter, de parler, d'écouter, de bouger, d'aimer. Transmettre son savoir, il continua à le faire, mais selon sa vision, comme il l'entendait, en créant une université populaire, un lieu gratuit et à tous ouvert, tel un refuge au savoir, accessible selon le simple bon vouloir de son auditoire. Il y enseigna sa contre-histoire de la philosophie, que l'on a pu entendre aussi pendant des années, par beau temps, car tout l'été durant, sur France Culture. Une philosophie ancrée dans la vie, dans le quotidien, dans la vérité, loin des illusoires croyances conformistes. Une tâche rude et exigeante, car comme il l'écrivait en 2005 dans son traité d'athéologie, mais ses propos pourraient illustrer de nombreux autres domaines, la crédulité des hommes dépasse ce qu'on imagine. Leur désir de ne pas voir l'évidence, leur envie d'un spectacle plus réjouissant, même s'il relève de la plus absolue des fictions. Leur volonté d'aveuglement ne connaît pas de limite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la conversation avec aujourd'hui Michel Onfray, bonjour.
Bonjour.
Vous nous recevez dans un hôtel.
Je vis en province, je travaille en province, et quand je viens à Paris où je n'ai pas de pied-à-terre, effectivement, il faut que je sois dans des hôtels, dans des cafés, dans des restaurants, et ma vie à Paris, c'est ça, c'est une vie de nomade à Paris.
Et vous travaillez où? Vous arrivez à travailler dans ces endroits nomades? Vous écrivez des fois à l'hôtel, des cafés, ou il faut que vous soyez au calme chez vous?
Écoutez, j'ai acheté une maison en Martinique, sur le bord de la plage, et j'y ai passé tout le mois de décembre où j'ai travaillé. Je devais normalement rentrer dans une maison où les travaux devaient être faits, et rien n'était fait. Donc quand je suis arrivé, on m'a dit « Bon, en fait, c'est pas comme vous le croyez. » Et j'ai travaillé pendant un mois avec le marteau-piqueur dans la maison, avec les scies circulaires, les disqueuses, avec les perceuses, les ponceuses. Et donc il y a un moment donné où il y a des gens qui trouvaient quand même extravagant que dans la pièce même où on faisait sauter l'ancien évier au marteau-piqueur, je puisse travailler à mon prochain livre, qui sera consacré à Orwell d'ailleurs, parce que de fait, je peux écrire n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle occasion, je peux me concentrer sans difficulté, quelle que soit la circonstance. La preuve, un marteau-piqueur dans une pièce de 15 mètres carrés ne m'empêchait pas de travailler et d'écrire. Je veux bien vivre sans lit, sans table, sans vaisselle, sans cuisine, mais je ne peux pas vivre sans les moyens de travailler. Donc je suis venu avec une valise pleine de livres, j'ai acheté l'ordinateur sur place, parce que ça m'est nécessaire comme l'oxygène.
Du coup, vous en êtes presque un peu victime, on pourrait aller jusque-là. Vous êtes dépendant, c'est un besoin premier chez vous.
Absolument. Je comprends les addictions. Je comprends les alcooliques, je comprends les drogués, je comprends les joueurs.
Il y a un côté obsessionnel.
Oui, absolument. On ne peut pas dire à un alcoolique, enfin, il faut arrêter de boire. Il y a des raisons qui font qu'il boit, et même s'il arrête de boire, de toute façon, sa vie est une tragédie. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. L'idée de dire « tu n'écriras plus », c'est une idée qui me tue, ça c'est clair. savez, si je perdais ma grand-mère est morte aveugle, paternelle, et je me suis dit un jour, mais je ne survivrai pas à l'aveuglement, disons-le comme ça, à la perte de la vue. Et autant je pourrais ne plus entendre, autant je pourrais perdre du goût, enfin je pourrais me passer d'un certain nombre de sens, mais ne plus pouvoir voir, ne plus pouvoir donc écrire ou lire, ou alors ça je pense que ce serait ne plus pouvoir vivre.
Vous avez dit un jour, nous naissons tous philosophes, et seuls certains le demeurent. Mmh. Ça m'a fait penser à une phrase de Beckett, dans En attendant Godot, nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent.
C'est pas vrai, il dit ça?
Ouais, je me suis dit, mais qui a raison, Onfray ou Beckett? Ou peut-être un peu les deux?
Les deux? Si je puis me permettre. il l'a dit dans cette formule-là?
Oui, exactement, mot pour mot. C'est ça qui m'a étonné,
incroyable,
très
oui,
proche
oui.
De votre formule à vous. D'ailleurs, est-ce que la folie est compatible avec la philosophie? Est-ce qu'on peut être fou et philosophe?
Oui, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il faut une part de folie pour ne pas prendre le monde pour évident. Un philosophe, c'est quelqu'un qui dit « mais pourquoi ça marche comme ça ?» Alors que tout le monde dit « bah, ça marche comme ça parce que ça marche comme ça, arrêtez quoi !» Et les enfants le sont parce que tous posent des questions éminemment philosophiques. Le langage chez les enfants arrive avec le questionnement et l'interrogation. C'est la stupéfaction. C'est mais pourquoi, mais comment, mais les enfants ne cessent de poser des questions. Alors soit les parents répondent, soit ils disent il y a une réponse, je ne l'ai pas, mais on va aller la chercher. Il y a des livres pour ça, il y a des bibliothèques, éventuellement des sites internet s'ils sont bien faits. Et il y a des parents qui parfois disent arrête de poser des questions, ça suffit. Enfin c'est comme ça parce que c'est comme ça, point à la ligne. Et il y a une espèce de castration du questionnement infantile, parce qu'à un moment donné, les enfants qui posent des questions et qui n'obtiennent pas de réponse cessent de poser des questions. Et puis il arrive un moment où, avec la scolarisation, on vous donne des réponses à des questions que vous ne vous posez pas. C'est-à-dire que vous allez finir par apprendre le PNB de la Belgique. Et vous dites, mais moi, le PNB de la Belgique, je m'en moque éperdument. De savoir si ce qu'est une plante monocotylédone. Vous dites, mais ça, c'est pareil, j'en ai rien à faire, j'ai pas de... Et donc l'école vous dit, arrêtez de vous poser des questions, mais apprenez les réponses aux questions que vous ne vous posez pas. Et donc, ceux qui continuent à dire, ah non, mais moi, je suis toujours en train de me demander pourquoi la nuit est noire, pourquoi l'eau, ça mouille, pourquoi, etc. Et ce sont des questions qui sont essentiellement philosophiques. Donc voilà pourquoi je pense qu'à l'origine, un enfant qui surgit au monde questionne le monde et donc est dans la position, dans la posture philosophique, et que quelques-uns ne renoncent pas à questionner le monde, et ceux qui n'ont pas renoncé à questionner le monde deviennent philosophes. Ce sont ceux qu'on appelle des philosophes.
Retour Michel Onfray sur quelques événements et personnes qui ont contribué certainement à vous faire devenir celui que vous êtes aujourd'hui.
Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris.
Il y a une force formidable en moi qui m'est conférée par mon homosexualité. Cette force-là, il faut la mettre au service de quelque chose de beaucoup plus grand que la débauche ou que l'homosexualité, qui est la lutte pour la libération du prolétariat.
Daniel Guérin participe à la fondation des auberges de jeunesse laïque, calqué sur le modèle des Jugendherberge en Allemagne.
Et donc j'ai fait la symbiose entre les deux choses et j'ai compris à ce moment-là que les deux choses étaient éternellement associées et non plus dissociées dans la personne.
Je crois que toute la pensée de Nietzsche s'articule autour de la mise en question radicale de l'idée de raison et par conséquent de toute la métaphysique occidentale, effectivement, depuis Platon.
À l'âge de 4 ans, tout à coup, je découvrais que le monde était là. Je ne savais pas encore dire qu'est-ce que ça fout là, mais c'était exactement le sens de ce qui se passait en moi. Mais pourquoi y a-t-il ? Pourquoi c'est là tout ça ? C'est la notion d'être que j'ai découverte.
Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune ou à s'armer contre elle pour mettre
fin? Il s'agit de commencer à savoir qui l'on est pour pouvoir se rendre meilleur à partir du savoir.
Qu'est-ce que la philosophie antique?
C'est la philosophie ambulante.
Se plonger totalement dans le monde.
En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
L'université populaire unit des nobles, lancée à la fin du 19e siècle par des intellectuels qui voulaient démocratiser la culture, la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment à la classe ouvrière. C'est ce même principe réactualisé qu'a repris à Caen Michel Onfray.
Plus on donne, plus on obtient.
C'est l'université populaire du théâtre, c'est un enfant naturel qu'on a fait, Michel Onfray. Bon, en fait, je vous disais que je m'occupe de lecture-spectacle, donc je me suis rapproché d'Onfray pour lui proposer de faire une lecture d'un de ses textes qui s'appelle Eichmann, la magie de Jérusalem. Et en fait, il m'a dit, vous êtes bien le seul à vous intéresser à ce texte. Moi, je ne fais du théâtre qu'accessoirement, mais voyons-nous, prenons un café. Et puis, ça a été un genre de, une rencontre, ça s'appelle en philosophie, on dit un apax. Et donc, on a accouché, lors de cette rencontre-là, d'un truc, d'un concept qui est, l'idée de faire de la philosophie à travers le théâtre, de faire des forums citoyens, gratuits, ouverts à tous.
Alors les fins d'année, donc les débuts d'année, sont propices à des exercices de rétrospective, et j'ai pris quelques notes en me disant, mais qu'est-ce qui vraiment a marqué cette année? En fait, c'est pas très fin, c'est pas très malin, c'est l'affaire des Gilets jaunes.
Bonsoir, merci d'être là pour ce dernier cours consacré à la contre-histoire de la philosophie, démarré il y a 13 ans maintenant.
Il vit sa philosophie. S'il y avait une idée que vous retiendrez, quelque chose qui vous a particulièrement interpellé?
Le fait que la philosophie, c'est pas quelque chose de livresque, mais c'est quelque chose de vécu.
Il est sincère, il est authentique, il ressent ce que, je crois, beaucoup ressentent. Bon, moi, je me considère comme faisant partie des petites gens, et il dit ce que nous pensons et que ce que nous ne pouvons pas dire nous-mêmes. Voilà, c'est notre porte-parole, voilà.
Vous avez reconnu, j'imagine, quelques voix?
Oui, mon vieux maître, Lucien Gerfagnon, il y avait Michel Foucault parlant de Nietzsche, je pense, c'était pas Foucault.
Il y a eu Daniel Guérin, oui, on l'a entendu. François Châtelet.
Ah oui.
Marouane Rached, Pierre Hadot. C'était Jean-Claude Idée à un moment qui parlait du théâtre, ce que vous avez fait, la contre-histoire de la philosophie avec le théâtre. L'université populaire, pardon, au théâtre.
Châtelet, c'est Châtelet. Bien sûr.
C'était Châtelet.
C'est drôle que j'ai. Il y avait une voix plus métallique chez Foucault, effectivement.
Ouais. On évoque MS 68, une révolution métaphysique, comme vous l'avez dit. Le premier tour de l'élection, la présidence avec Le Pen qui arrivait face à Jacques Chirac. Ce qui vous a donné envie, vous l'avez dit souvent, de créer cette université populaire. Une musique de Éric Tanguy, donc vous avez signé la préface du livre 50 questions pour 50 ans de questionnement, et puis le public de vos cours qui déclare la philosophie avec Michel Onfray, c'est quelque chose de vécu. La dame qui disait, elle dit ce que nous pensons, c'est notre porte-parole.
C'est peut-être pour moi le moment le plus émouvant.
Est-ce que vous acceptez d'endosser ce costume de porte-parole de vos auditeurs, de vos auditrices?
Est-ce que je le mérite? C'est ça la question. C'est un beau costume, c'est un grand costume. Est-ce que j'ai les épaules pour ça? C'est un devoir d'être à la hauteur des demandes d'autrui. C'est vrai qu'il y a un moment donné, quand on est un peu plus que soi, on a des devoirs à l'endroit des gens qui nous disent vous portez notre voix. Mais c'est pas facile de dire je porte la voix de telle ou telle personne, parce que bon, de qui? C'est vrai, quand elle dit les gens simples, les gens modestes, etc., je suis touché par ça, parce que de fait, je viens de ce monde-là. Je n'en suis plus, évidemment. Il y a un moment donné où, quand on écrit beaucoup de livres, qu'on a des droits d'auteur, qu'on a de l'argent et qu'on fait partie de la classe aisée, ce qui est mon cas, comment peut-on rester fidèle à ce monde-là? Je pense qu'on peut tout de même le rester, que c'est pas en disant je dilapide tous mes biens et je me mets dans l'état de pauvreté qui était celui de mes parents que je serai plus crédible. Ça n'a aucun sens. C'est un certain type de rapport au pouvoir, à l'avoir, à l'argent qui est essentiel. C'est pas le fait d'avoir ou de pas avoir. C'est est-ce qu'on est possédé par ce qu'on possède ou pas? Mais il y a un moment donné où il faut être fidèle à ce qu'on a vécu. Moi, je me souviens que
de choses très précises, c'est-à-dire mon père se rasait 3 fois par semaine, pas tous les jours, mais avec un blaireau, ça faisait un bruit particulier, avec un rasoir à main, ça crissait. Et le dimanche matin, c'était le moment du rasage. Et à un moment donné, il y avait une méhari verte qui était conduite par un chef de culture de mon père, qui était donc ouvrier agricole. Et ce chef de culture arrive, rentre à peine en frappant, mais il frappe, il rentre. Mon père était en train de se raser, mon père s'appelait Gaston, il dit « Bon Gaston, le temps est bon, là, on va moissonner aujourd'hui, donc et voilà. » Et paf, pas de dimanche, il repart dans sa voiture, et mon père dit « Bon, ma mère dit, enfin, tu lui dis rien, on avait prévu des choses. » Mon père dit « Ben, c'est la moisson, faut y aller, quoi. » Et il est bien évident que quand la moisson commandait, mon père travaillait 12 heures par jour, comme tout le monde, à la ferme, et qu'il travaillait la nuit, et qu'il n'était pas payé plus cher. Simplement, l'hiver... On aurait pu lui dire, eh bien, écoute, Gaston, le terrain est gelé, le sol est gelé, donc pendant les 3 jours, tu vas rester à la maison, ça ira comme ça, tu vas pouvoir te reposer. Non, non, pendant les 3 jours où il y avait un gel à pierre fendre, eh bien, mon père graissait le matériel, nettoyait, repeignait des trucs, ou voilà. Et ce sentiment d'injustice, où ma mère apportant de la viande dans un papier d'aluminium, c'est comme ça que j'ai découvert le papier d'aluminium, et elle dit, bah voilà, c'est ma patronne, elle a dit, bah prenez Hélène, sinon on va le jeter. Vous savez, ces trucs des enfants de pauvres qui ne peuvent pas manger de la viande parce qu'en gros, ils constatent que c'était ça ou la poubelle et que la viande est sortie de la poubelle, quoi. Et que c'est bien assez bon pour les pauvres. Et je me suis dit, je serai toute ma vie, mais je me souviens très précisément du moment d'enfance qui m'a fait dire, je serai toute ma vie fidèle à cette humiliation. Je vais pas formuler comme ça, mais je me suis dit, j'oublierai jamais ça. Et j'ai essayé depuis de ne jamais oublier qu'il y a encore aujourd'hui des gens qu'on humilie de cette manière-là. Alors c'est peut-être un peu plus subtil parce qu'évidemment il s'est passé, il y a eu des luttes, il y a eu des choses qui ont fait que on ne s'adresse plus de la même manière aux ouvriers aujourd'hui que justement avant mai 68. Et que des gens simples et modestes puissent dire, il dit ce que nous ne parvenons pas à dire, c'est-à-dire d'une certaine manière c'est notre porte-parole. Moi je suis extrêmement touché par ça.
Si vous n'aviez pas découvert la philosophie à 17 ans, est-ce que vous pensez qu'une autre rencontre aurait pu donner un tel sens à votre vie, un engagement politique, une pratique artistique?
Sûrement. Sûrement, je crois. Vous posez une question que je me suis souvent posée en me disant, mais si la philosophie n'avait pas eu lieu dans ma vie avec cette rencontre, bon, d'abord avec des livres vers 14-15 ans, mais ensuite avec Lucien Gerfagnon à la fac.
Votre professeur de philosophie.
Voilà, donc on a entendu tout à l'heure disant, je me suis trouvé à 4 ans devant cette question, mais c'est quoi l'être?
Et qu'il y avait une approche proche de celle que vous avez utilisée après quand vous avez été vous-même pendant 20 ans prof de philo, à savoir mettre la philosophie dans le concret, dans la vie, dans le quotidien, sortir de l'aspect théorique, oui, scolaire, oui, et le rendre vivant, le rendre réel.
Absolument, je suis totalement son disciple sur ce terrain-là.
Vous avez créé l'Université populaire pour lutter contre les idées du Front National, vous l'avez dit, à l'aide de la philosophie pour analyser, pour apprendre à penser, à réfléchir. 17 ans plus tard, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un peu réussi précisément sur cet objectif premier?
J'ai réussi et j'ai échoué. C'est-à-dire que j'ai réussi parce que ça a duré longtemps et qu'il y a eu une communauté philosophique, c'est le titre d'un des livres que j'avais consacré à cette histoire, et que cette communauté philosophique, j'en ai eu des profs de temps en temps, des gens qui écrivaient, des gens qui racontaient des choses, des gens qui se voyaient après à dîner ou qui faisaient du covoiturage ou des débats qui ont eu lieu, etc., etc. Donc il y a eu ça. Mais il y a aussi eu des moments où je me suis aperçu que ça ne produisait pas d'effet là où ça aurait dû en produire. C'est-à-dire qu'on a eu des difficultés pendant des années à trouver des subventions pour l'Université populaire. Matériellement, concrètement, personne ne nous a jamais aidé de l'Université populaire. Quand je disais, bon, on était obligé de faire des crayons à papier et que on s'entendait dire par la région, vous n'avez pas mis le logo de la région Normandie sur le crayon à papier, qu'on faisait des parapluies et qu'on disait, et en Normandie ça sert les parapluies, et qu'on disait, alors qu'il y avait 1000 personnes dans la salle, aidez-nous à acheter des parapluies, il faut qu'on contribue au financement de l'Université populaire, et qu'on vendait 3 parapluies avec une salle de 1000 personnes. Et quand j'ai travaillé sur Lorenzo Valla, par exemple, qui est un philosophe qui n'avait jamais été traduit, qui avait écrit De Voluptate en latin, j'ai fait traduire ça par une amie. Un ami éditeur a fait un livre, j'ai fait une préface, tout le monde a travaillé bénévolement. J'ai dit, bon ben voilà, j'ai consacré un cours, plusieurs cours à Lorenzo Valla, ce qui serait bien, c'est que vous achetiez le livre, on vous le fait au prix coûtant. Eh bien, il y avait même chose, 1000 personnes, on a vendu 4 exemplaires. Donc il y a un moment donné où on se dit, mais est-ce que les gens ne sont pas capables d'acheter un livre de 6 ou 7 euros, même pour ne pas le lire, mais simplement pour l'avoir, en disant, c'est juste fait pour payer une jeune fille qui a fait une traduction qui sinon ne sera pas payée. Et donc on se dit, mais c'est le public même de l'université populaire qui est là et qui ne fait pas cette démarche, qui ne fait pas cet achat. Alors donc c'est vrai que c'est un peu désespérant. Et puis quand il a fallu, moi j'ai arrêté parce que bon, d'abord il y a eu des pressions politiques qui ont fait que la directrice de France Culture a annoncé qu'elle ne diffuserait plus mes cours. Bon, on voit bien, c'est une punition politique. Après ça, le maire de Caen était incapable de 2 années de suite de me trouver 14 séances, enfin un lieu pour 14 séances au jour et à l'heure de son choix. Je lui dis, si c'est dimanche matin de 8 à 10, je peux le faire. Je dis, bon, si effectivement, si peu de gens veulent de nous, que le maire ne veut pas, que Macron ne veut pas, que France Culture ne veut pas, que moi je veux plus, ça s'arrête, j'étais bénévole, c'était gratuit, j'ai perdu un temps fou, une énergie folle à faire tout ça, et aujourd'hui...
Peut-être pas perdu.
Non, vous avez raison, j'ai tort d'utiliser ce mot-là, j'ai pas perdu. Mais il y a eu un moment donné où, vous savez, quand j'ai dit tout ça c'est fini, j'ai reçu moins de 10 lettres me disant on est déçu par le fait que ça ferme.
On va continuer notre conversation, Michel Onfray, après votre choix musical, Alain Bachung, son album posthume En amont, avec le titre Immortel.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? M'avais-tu deviné? Que des dieux se cachaient sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en revenez. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait, et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu...
Les grandes conversations pour moi sont celles qui ont fait que, après la conversation, je me suis dit, de fait, j'ai appris des choses, mais des choses majeures.
Michel Onfray, le journal Le Point faisait référence dans un article il y a quelques jours à l'un de vos premiers textes écrits à 11 ans, Carnet jaune. Il s'agissait de quoi ?
Oui, j'ai commencé à 10 ans. C'est drôle parce que je suis né le 1er janvier 59. Donc quand je suis rentré dans cet orphelinat où j'ai été placé quand j'avais 10 ans, donc je vis les trois derniers mois de mes 10 ans et tous mes 11 ans dans cette pension. Et donc je commence quand j'ai 10 ans, je finis quand j'ai 11 ans. C'est sur 3 mois en fait. C'est un récit que je n'ai pas eu le courage de relire, mais qui est une pure fiction. C'est-à-dire, j'avais demandé un petit carnet. À l'époque, on avait ce qu'on appelait des fournitures, et donc on demandait des crayons, des gommes, et il fallait justifier chaque chose. Et là, j'avais demandé un petit carnet. On m'a dit, mais pour qui? Quel professeur demande ça? Et je ne me suis pas vu le dire à ce monsieur qui s'appelait Monsieur Naturel. Il était responsable des fournitures, il s'appelait Naturel. Et de lui dire, je veux ça pour écrire, j'ai envie d'écrire une histoire, quoi. Je me suis dit, il va pas me croire. Donc j'ai fait un mensonge pieux, je lui ai dit que j'allais créer un agenda pour les mots anglais et que, c'est une bonne idée, personne ne fait ça, c'est ton initiative. Je lui ai dit, oui, c'est mon initiative. Donc il m'a filé le petit carnet que j'ai payé, bien sûr. Je suis nul en anglais depuis, d'ailleurs, si vous voulez être freudien, j'ai jamais fait l'agenda. Mais j'ai rempli ce carnet. Et donc j'ai raconté une histoire qui, au dire de ceux qui l'ont lu, moi j'ai pas pu, mais enfin on m'a raconté plein de choses.
Mais vous allez souvenir de cette histoire?
Oui, enfin, j'ai souvenir d'un cheval battu. Et c'est moi le cheval battu, bien sûr, quoi. Et m'a-t-on dit récemment d'un oncle alcoolique qui était mon pauvre oncle, qui n'était pas du tout alcoolique. Il adorait les femmes. Il était célibataire, mais il en collectionnait beaucoup dans le village. Il était chauffeur laitier, mais pas du tout violent et pas du tout. Donc c'est vrai que, enfin, le fameux Madame Bovary, c'est moi de Flaubert, fait que on a un peu mélangé les choses. Les gens ont l'impression que la fiction, c'est une réalité purement décalquée. D'autant que les auteurs qui aujourd'hui n'ont aucune inventivité ou aucune imagination balancent.
C'est un peu définitif, ça.
Oui, non, enfin, je veux dire, dans l'autofiction.
Dans l'autofiction. Hein, mais c'est le principe de l'autofiction.
Non, mais j'allais y arriver. Explique aujourd'hui que, ils racontent leur vie en changeant les noms. Et puis, c'est à peu près tout. Ils disent, voilà, aujourd'hui, c'est de l'autofiction, donc j'ai tous les droits et je peux tout raconter. Alors qu'un grand auteur, c'est quelqu'un qui, justement, a de l'imagination, transcende tout ça, etc. Dans ce petit carnet, tout est vrai et tout est faux. C'est-à-dire que, effectivement, mon oncle n'était pas un alcoolique violent. Le cheval était effectivement battu. Mais, en fait, le cheval, c'est moi. Et mon oncle, je sais qui c'est.
D'accord.
C'est ma mère, en l'occurrence. Et donc, on m'a dit, en plus de ça, que ma mère tombait dans les escaliers et finissait par mourir à la fin de ce petit récit. Donc, et puis, un truc assez extravagant, c'est que j'ai inventé un personnage qui s'appelle Palente. P-A-L-E-N-T-E. Donc, c'est vraiment un nom propre que j'ai totalement créé. Et il se fait qu'en 1988, j'étais à la Sorbonne, je crois, et enfin, du moins, je sortais de Chevrin, et j'ai acheté un livre qui était consacré par Yannick Pelletier, qui était professeur de littérature à Saint-Brieuc, à Georges Palente, qui est un philosophe qui existe, et que j'ai découvert à cette occasion. C'était des extraits, des morceaux choisis avec lesquels il avait fait un très joli livre qui s'appelait « L'individu en détresse ». Et donc, j'ai eu un coup de foudre pour Georges Palente, et j'ai écrit un livre sur Georges Palente. Donc mon premier livre est consacré à Georges Palente, et dans ce petit récit, à l'âge de 10 ans, j'invente un personnage qui s'appelle Palente. C'est quand même assez sidérant, parce que, franchement, j'ai pas pu entendre ce nom avant, et voilà. Bon, donc il y a effectivement... un peu comme dans le gland, il y a tout le chêne, si vous voulez, en potentialité. Je pense qu'il y a, dans n'importe quel fruit, il y a l'arbre. Eh bien, il y a dans ce petit texte tout ce que je suis devenu par la suite. Il y a même un moment donné où, semble-t-il, je découvre la mer, et c'est dans un pays chaud, et c'est formidable, et d'un seul coup, je connais le bonheur. Je viens d'acheter une maison en Martinique sur la plage, sans savoir que j'avais écrit ça un jour, mais mon corps s'en souvient probablement.
Comment vous expliquez votre notoriété? Des philosophes connus du grand public, il y en a 4-5, vous en faites partie. Pourquoi vous êtes déjà posé cette question?
D'abord, on est quelques-uns qui faisons partie d'une génération claire. Comme on dit qu'il y a une ligne claire dans la bande dessinée, il y a eu une philosophie qui, jusqu'à Derrida, y compris, mais à partir de Sartre, je dirais, de Sartre à Derrida, il y a une philosophie pour philosophes. Phénoménologie, déconstructionnisme, structuralisme, etc. Et il fallait être soit philosophe de profession pour l'aimer, la comprendre et l'apprécier, soit, quand il n'y avait rien à comprendre et à apprécier, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de verbiage, être assez snob pour dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est grand, l'archéologie, enfin, ou les mots et les choses de Foucault, très grand livre que personne n'a lu. L'être et le néant, formidable, mais très peu de gens avaient lu. On dit même à une époque que l'un des cahiers avait manqué dans L'être et le néant, et que personne ne s'en est aperçu. Quoi. Donc effectivement, il y a une grande parenthèse en philosophie, qui a fait que on a porté crédit à des gens qui étaient nébuleux, abscons, incompréhensibles. Et puis cette parenthèse s'est fermée, y compris chez ceux qui avaient contribué à l'ouvrir. Le dernier Derrida est devenu plus lisible que celui de la grammatologie ou autre. Et il se fait que pour des gens très hétérogènes sur le terrain de la pensée, alors là, pour le coup, de Bernard-Henri Lévy, André Comte-Sponville, Luc Ferry, Adolf Hinkielkraut,
voilà, on les a tous.
Bruckner, je sais pas. Eh bien, il y a effectivement un point commun. Alors, évidemment, pas du tout politique, pas du tout. C'est même très, très, très hétérogène en ce sens. C'est que nous sommes tous lisibles et compréhensibles. Donc, il n'y a pas de difficulté de compréhension à un livre de l'un de ces philosophes dont je viens de parler. Tout. D'une part. D'autre part, on est rentré dans une ère médiatique qui n'est pas du tout la même que celle de Sartre ou Foucault. Si vous cherchez les images de Sartre et Foucault, elles sont assez rares. Je pense même que celles de Sartre sont nulles. Il n'y en a pas. Sartre invité à une émission littéraire, ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, il y a pléthore. Et il se fait que parmi ceux dont j'ai parlé, il y a ce qu'on appelle des bons clients. C'est-à-dire des gens qui, devant un micro ou une caméra, se comportent correctement parce qu'ils savent parler, ils savent être clairs, et puis sont éventuellement capables de débattre. C'est-à-dire sur un plateau, quand ça cogne un peu, parce que chez Pivot, ça ne cognait pas, mais aujourd'hui, pour faire le buzz, il faut absolument agresser les gens, les uns, les monter les uns contre les autres. Et de fait, ces philosophes dont je viens de parler sont des gens qui peuvent être des gladiateurs à leur manière.
Vous incluez dedans ?
Oui, je pense.
Y compris sur ce point-là, donc accessible et capable d'aller
oui, ben,
au combat.
La preuve, vous venez me chercher, je suis sûr que si je bégayais, j'aurais moins de succès. Parce qu'on est dans une civilisation où les gens lisent de moins en moins, et lisent de plus en plus, regardent de plus en plus leurs écrans. Et c'est difficile. Aujourd'hui, ça fait un éditeur qui dit « Bon, moi, je prends le risque de publier un livre de 500 pages. » Quand aujourd'hui, les gens ne vont pas au-delà de je sais pas, 10 000
signes. 40 caractères sur Twitter.
Bah, parfois, oui. Donc, quand on a dit « Macron a fait une lettre, elle fait 15 000 signes », bon, et les gens ont l'air de dire « Qui va pouvoir lire ça ?» C'est quand même assez sidérant, quoi, 15 000 signes. Moi, j'écris ça en 25 minutes. Donc, il y a un moment donné où...
Lui aussi, peut-être.
Ceux peut-être qui ont écrit moins. Sa lettre, probablement. C'est leur métier. Mais il y a un moment donné où, effectivement, dans un univers médiatique comme le nôtre, les philosophes qui savent répondre du tac au tac sont mieux placés que ceux qui disent « Bon, attendez, moi j'ai besoin d'une longue argumentation, il me faut une petite heure pour vous expliquer ce concept. » Parce que là, on dit « Ah non, 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 excusez-nous, il y a la pub, il y a les autres, il faut que ça aille vite. »
Donc, bon orateur, propos accessible, c'est ça qui permet une forte notoriété aujourd'hui.
En partie, après, non, parce que ces gens dont je parle aimeraient parfois avoir mes tirages. Hein, donc là, après, il y a autre chose. Les tirages, ça s'explique, parce que on peut aussi faire des choses un peu... Enfin bon, c'est pas à moi de dire si je fais des choses de qualité ou pas, mais je vois bien comment je pourrais faire un livre à 500 000 exemplaires. Des recettes du bien-vivre, etc. Ce qu'on appelle le développement personnel. Il y en a 4 ou 5 qui sont sur ce créneau-là. Et moi, ça m'a pas intéressé du tout de faire du développement personnel. Donc, il y a aussi une partie de jeunes agrégés de philo, normaliens, qui tombent un peu dans ce travers d'un truc un peu simpliste. Alors ça, si c'est la nouvelle génération de philosophes, on est mal parti. Mais chez les précédents, on rencontre son public. C'est-à-dire que si vous écrivez des choses qui n'intéressent pas les gens, ben les gens vont pas acheter vos livres, quoi. Et les gens achètent vos livres parce que, à la télévision, ils vous ont entendu, ou à la radio, dire des choses qui leur feront dire, ah, ce livre-là, ça peut m'intéresser et je vais l'acheter. Donc, voilà pourquoi, de temps en temps, des gens font 10 heures de télévision et certains vendront des livres et d'autres n'en vendront pas, simplement parce que le public qui n'est pas sot, comprend qu'il y a des livres qui ont été fabriqués comme ça parce que bon, il faut être présent sur le terrain de la télévision. Vous savez, il y a des philosophes qui font des faux livres pour pouvoir exister médiatiquement, ce qui leur permet par ailleurs de faire des conférences payées 10, 15, 20 000 euros. Donc, certains livres sont faits pour ça, juste pour vous entretenir votre visibilité sur des plateaux de télévision. Donc, les gens savent bien que ça marche comme ça. Enfin, ils savent pas, ils connaissent pas le détail, mais ils voient bien que quand un livre est creux, ne porte rien, ne défend aucune idée, qu'éventuellement le livre précédent défendait une idée inverse, ils vont pas forcément acheter ce livre-là. Donc, il y a une intelligence du public qui dit « ce livre m'intéresse parce que le sujet m'intéresse, je vais y trouver mon compte ».
Je vous emmène au cinéma tout de suite, Michel Onfray, pour écouter de quelle manière le 7e art parfois s'intéresse à la philosophie, ou plutôt aux philosophes, avec au programme de cette séquence sonore Confucius de Mei Hu, Blaise Pascal de Roberto Rossellini. On va écouter un extrait des derniers jours d'Emmanuel Kant de Philippe Collin, Le destin de Youssef Chahine, Le banquet de Marco Ferreri, Anna Arendt, réalisé par Margaret Van Trotta, et Socrate à nouveau, réalisé par Roberto Rossellini, le tout sous une musique de justement du film Confucius, composé par par Zhao Jiping.
Moteur.
Comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement et d'user de tant de circonspection en toute chose que si je n'avançais que fort peu, je me garderai au moins de tomber. Je me résolus ensuite de ne rien accepter pour vrai qui n'apparaisse-t-elle à ma connaissance avec évidence. Aussi dès que l'âge me permit d'échapper à l'autorité de mes maîtres, je quittai entièrement l'étude des lettres et me résolus à ne pas chercher d'autres sciences que celle qui se trouvait en moi-même ou dans le grand livre du monde.
L'homme n'a jamais le bonheur, il va l'avoir.
Le mal vient de ceux qui se servent de la religion. Tu ne fais rien pour les empêcher de nuire. Dans les mosquées, on ne voit plus qu'eux, et les fidèles n'écoutent plus que leurs prêches.
Sans doute aiment-ils plus leur éloquence que la tienne. Ce sont des hommes de foi.
Dis plutôt qu'ils en font commerce et qu'ils sont d'habiles manipulateurs. Dans le passé, ils se sont servis des victoires arabes pour accroître leur pouvoir. Aujourd'hui, ils parlent au nom de la religion et demain, ils trouveront autre chose pour servir leurs intérêts.
Ton fatras philosophique me fatigue.
Ne plus s'abandonner aux paniques des ténèbres.
C'était le professeur Emmanuel Kant. Je le croyais plus jeune.
Je t'apprends là, Socrate, les mystères de l'amour. L'initiation parfaite de l'amour et sa révélation. Je ne sais si tu pourras t'en approcher. Cependant, je t'en parlerai avec la même ferveur. Écoute, tu rechercheras d'abord les corps les plus beaux, qui inspirent les plus belles paroles à tous les amoureux. Mais ensuite, très vite, tu comprendras que la beauté d'un corps mortel, en tout point, est semblable à celle d'un autre corps mortel.
C'est incroyable, non ? La fameuse Anna Arendt veut faire un reportage pour nous.
Ce serait un privilège d'avoir une immigrée juive allemande aussi réputée sur ce procès exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas à hésiter.
Elle fait partie de tous ces philosophes européens, c'est ça ?
Elle a été la première à écrire sur le Troisième Reich du point de vue de la civilisation occidentale.
C'est très brillant, mais c'est abstrait. Je comprends pourquoi elle veut être à Jérusalem.
Les philosophes, ils ne savent pas ce que c'est qu'un délai.
Les posso capire, Socrate. La morte est horrible. È senza dubbio tanto più dolorosa della nascita.
Può darsi, ma può essere anche che sia dolce, se si avvicina alla verità.
Siamo tutti mortali, Socrate.
Ne plus abandonner aux paniques des ténèbres.
On se rend compte que le cinéma s'est parfois plus intéressé à la vie des philosophes qu'à leurs idées. Est-ce que vous aussi, la vie, le parcours de l'homme philosophe, voire parfois sa vie privée, peut avoir un intérêt au-delà de ses idées?
Est-ce que vous savez que j'écris un livre sur les philosophes au cinéma?
Non.
C'est pas vrai, vous savez pas ça?
Ah ben non, je suis passé à côté, j'aurais...
Non, non, mais je l'écris.
Ah vous, vous êtes en train de l'écrire? Ah bon, parce
oui,
que...
Oui, oui, oui.
Ah ben vous allez
mais je suis dans
vous en
monde,
dire deux mots.
Ah oui, oui, parce que j'ai vu tous ces films, hein, vraiment, sauf Confucius, là, je n'ai pas vu ce film. Mais tous les autres, je les ai vus, et il y a assez peu de films consacrés aux philosophes. Mais je pense qu'il y a, chez les cinéastes, un travestissement du réel qui est assez sidérant. Donc j'ai répertorié tous les films qui ont été consacrés à des philosophes. Il n'y en a pas beaucoup, finalement, hein, il y en a très peu. Et donc Rossellini en a fait beaucoup, et c'est extrêmement fidèle, très très fidèle, très austère, très dépouillé, assez peu cinématographique, plutôt théâtre
proche
filmé.
Proche du documentaire, du
non,
coup, que de la
plutôt
fiction
du théâtre. Oui, en fait, si, ouais. Vous avez raison. Disons du théâtre filmé qui soit en même temps documentaire. Donc c'est extrêmement respectueux, mais globalement, c'est presque de la radio filmée. C'est-à-dire que on voit un type qui dit des choses, et puis il est habillé à la romaine, et puis il est sur un chemin, et voilà, ça, le plan peut durer 10 minutes, et bon, d'accord. Et donc ce livre, je le fais au fur et à mesure, comme ça. Je regarde un film et je travaille sur ce film-là. Celui sur Anna Arendt était extrêmement bien fait. C'était extrêmement précis, rigoureux, pas une seule faute, beaucoup de tabac, on les voit en train de fumer,
oui,
en permanence.
Oui, pas pendant tout le film.
Ah, mais je me dis, mais c'est un film politique.
Et très beau cinématographiquement, oui. Jolie mise en scène,
absolument,
bon comédien.
Absolument. Et donc, moi j'ai toujours pensé, j'ai écrit un scénario de film sur la vie de Nietzsche, que si vous voulez faire de la philosophie au cinéma, il fallait montrer des vies philosophiques. On peut pas faire un film sur l'éthique de Spinoza. Faudrait y réfléchir, mais je pense que c'est plus intéressant de faire un film spinoziste sur l'éthique de Spinoza qui permettrait de montrer à des gens simples, c'est-à-dire sans culture philosophique, ce qu'est la pensée de Spinoza. J'ai été emballé par Tous les matins du monde de Corneau, d'Alain Corneau, qui avait réussi à faire quand même de Sainte-Colombe et de Marin-Marais, que personne ne connaissait précédemment, c'est-à-dire des joueurs de viol de gambe du grand siècle, de faire de ces deux-là des héros de cinéma. Alors bien sûr, il y avait Depardieu, il y avait Jean-Pierre Marielle qui portait quand même les personnages. Mais une intrigue sur ces deux individus avec de la musique baroque, c'était pas gagné au départ. Et je me suis dit, si Corneau a gagné son pari, un réalisateur qui travaillerait dans son sens, avec des belles images, avec une histoire à raconter, pourrait faire la même chose avec, par exemple, la vie de Montaigne, la vie de Socrate, même si Rossellini l'a un peu fait, mais pas complètement. Ça pourrait même être uniquement le procès de Socrate. Je pense que ça pourrait être une belle chose. La vie de Nietzsche, c'est pourquoi j'avais fait à l'époque un scénario de film, parce que ces ponts-là n'ont pas encore été jetés entre le cinéma et la philosophie. Mais moi, j'aspirerais à ce que ce pont-là soit construit et jeté.
Vous venez de publier, Michel Onfray, le troisième tome de Brève Histoire, la Brève Encyclopédie du Monde, débuté par Cosmos, une philosophie de la nature, puis il y a eu Décadence, une philosophie de l'histoire, et enfin Sagesse, une philosophie pratique. Vous nous apprenez au début de l'ouvrage qu'il y aura des suites. Anima, une philosophie de la nature humaine, esthétique, une philosophie de l'art, nihilisme, une philosophie du post-humain et peut-être encore d'autres. Vous ne fermez pas la porte, oui. On ne sait pas jusqu'où vous allez aller. Votre point de départ de sagesse, c'est que notre civilisation menace de s'effondrer et vous proposez des solutions en vous inspirant de la pensée philosophique des Romains. Est-ce que, parallèlement, et peut-être même le réel problème, n'est-il pas de comprendre les freins qui nous empêchent cet effondrement plutôt que de trouver des solutions? Est-ce que ces freins, qui sont peut-être d'ailleurs purement cognitifs, le déni, la procrastination, ne sont pas ce qu'il faut mettre en avant et rechercher pour peut-être éviter de tomber dans cet effondrement? Parce que les solutions, on les a, le dérèglement climatique, l'équité homme-femme, le partage des richesses, les solutions sont simples à appliquer. Par contre, pourquoi est-ce qu'on ne les applique pas? Est-ce que c'est pas là le vrai cœur du problème?
Non, je crois pas du tout. Non, je pense que la civilisation qui s'effondre, c'est une problématique en soi. Et enfin, tout le monde le sait obscurément. C'est-à-dire, les gens, quand ils vont passer leurs vacances à Louxor, ils envoient des photos des pyramides. Quand ils vont en Grèce, ils envoient le Parthénon. Quand ils vont à Rome, ils envoient le Colisée. Et quand ils vont éventuellement à Chartres, ils envoient la cathédrale. Parce que, éventuellement, l'alignement des menhirs de Karnak, parce que à chaque civilisation, enfin à chaque époque, il y a une civilisation, et toutes ces civilisations sont mortes. La civilisation égyptienne est morte, la civilisation grecque est morte, la civilisation romaine est morte. Il n'y a pas de civilisation qui ne soit pas morte. Donc je tire cette conclusion que notre civilisation est soumise aux mêmes lois, il n'y a pas de raison que toutes les civilisations meurent, sauf la nôtre.
Donc elle doit mourir.
Elle doit mourir.
C'est l'histoire, c'est le sens de l'histoire.
C'est l'évidence. Et elle est en train de mourir. Alors, vous avez raison, il y a des possibilités de ralentir le mouvement. Un peu comme si vous ne faites pas de sport et que vous mangez comme un cochon et que vous buvez beaucoup et que vous fumez, etc. Votre vie risque d'être courte et que si, en revanche, vous faites des efforts, vous pouvez rallonger votre vie. Il n'empêche que vous allez mourir quand même. Jeune ou vieux, vous allez mourir. Une civilisation meurt, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit vieille. Les Juifs, par exemple, sont capables de faire durer leur civilisation parce qu'ils aiment leur civilisation, ils aiment leur culture, ils se donnent les moyens de la protéger, ils ne sont pas dans la caricature d'eux-mêmes, dans la haine d'eux-mêmes, ils sont dans l'intelligence à l'endroit de leur texte, de leur corpus, de leur etc., etc. Et voilà comment une civilisation peut durer, il faut qu'elle s'aime. Une civilisation qui commence à ne pas s'aimer est une civilisation qui travaille à son propre sabordage. Donc je dis, effectivement, notre civilisation judéo-chrétienne est en train de s'effondrer, mais pas depuis mai 68. Hein. Je date ça du 15e siècle, à partir du moment où le christianisme ne fait plus vraiment la loi, et où la pensée de la Renaissance va rendre possible la lecture des auteurs anciens, notamment matérialistes. Et après, bon, c'est tout l'objet de décadence, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je dis, bon, voilà où nous en sommes, et c'est extrêmement fissuré, très 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 fissuré. Ça veut dire que plus rien n'est possible pour empêcher que ça tombe. Simplement, on ne sait pas comment ça va tomber. Il y a un moment donné, vous avez quelqu'un qui passe, il donne un coup d'épaule malencontreusement, il y a une pierre qui tombe, puis 3, puis 10, puis une clé de voûte, le bâtiment tombe, emmène un autre bâtiment, puis paf, les ruines arrivent très vite. Et donc, on ne sait pas ce qui va être le coup d'épaule. Mais on voit bien qu'on est dans cet état des lieux. Donc je ne propose rien qui pourrait dire, mais moi j'ai une technique, on va injecter du béton partout, vous allez voir, la civilisation va repartir comme en 14, sûrement pas. Je dis juste, dans l'attente de l'effondrement, dont on ne sait comment il aura lieu et de quelle manière il aura lieu, mais qui aura de toute façon lieu, je vous propose une sagesse pour attendre.
Ce n'est pas comment survivre, c'est comment bien mourir.
C'est comment bien vivre en attendant la mort. J'ai pensé au départ démarrer avec le Titanic, mais comme je voulais ne parler que des Romains, je me suis dit, le Titanic avec les Romains, ça va pas le faire.
On va écouter quelques notes de piano. Vous nous avez demandé une pièce pour piano de Bach. Voici Glenn Gould avec la variation numéro 13, extraite des variations de Goldberg.
Conversations qui font que, après elles, vous n'êtes plus le même, elles sont rares dans la vie. Et quand on en a déjà eu deux ou trois, c'est déjà beaucoup.
La conversation.
Michel Onfray, est-ce que la philosophie, selon vous, peut soulager des souffrances, qu'elles soient morales ou physiques ?
Oui, je pense que si elle ne faisait pas ça, elle ne mériterait pas une seconde de peine. Je pense vraiment que la philosophie, ça ne sert qu'à ça. Alors je sais qu'il y a des philosophes de l'épistémologie, de la philosophie des sciences, qu'il y a des philosophes de l'esthétique, de la beauté, de l'art, etc., qu'il y a des logiciens, enfin bon, qu'il y a des philosophes divers et multiples. Mais pour moi, la philosophie, elle est d'abord existentielle. C'est-à-dire, elle doit servir à bien vivre, donc à régler des problèmes comme vieillir, aimer, souffrir, se retrouver devant la pauvreté, la misère ou la fortune. Et en ce sens, elle donne des solutions extrêmement concrètes. Et bien sûr que face au deuil, face à la souffrance, face à la maladie, elle fait son office, ça c'est sûr.
Dans Cosmos, vous avez écrit « La psychanalyse produit des effets chez ceux qui y croient ». Est-ce qu'il faut croire aussi en la philosophie pour que ça marche, si j'ose dire ? Pour que ce soit efficace, pour que ce soit thérapeutique ?
Non, parce que la psychanalyse fonctionne dans la logique de l'effet placebo. C'est-à-dire exactement comme l'homéopathie.
Uniquement pour vous ?
Ah bah oui.
Rien de plus.
Bah,
mieux,
bah, oui.
Ça m'a... Non, mais
oui,
selon vous quand même.
Oui, oui. Bah, j'ai fait un gros livre là-dessus. Oui, pour moi. Freud lui-même dit que ça marche pas. Donc, quand il dit que c'est un blanchiment de nègre, quand il dit dans Analyse avec fin, analyse sans fin, qu'un jour on réglera tous ces problèmes-là avec de la pharmacie, mais qu'en attendant, sa contribution n'aura pas été nulle. Enfin, j'ai juste invité les psychanalystes qui me crachaient dessus à lire Freud. Je dis, ça vous changera. Accéder au texte directement plutôt qu'au catéchisme. Et vous verrez que Freud lui-même disait, ça marche pas. Mais bon,
ça marche tel un placebo. Donc ça marche bien.
C'est ça, oui, bien sûr.
L'homéopathie fonctionne
absolument
bien.
Mais vous remarquerez qu'à chaque fois que quelqu'un défend mordicus l'homéopathie, quand il a un cancer, il continue pas avec l'homéopathie. Hein, il va chercher... Mmh. Voilà. Donc il y a un moment donné où, si ça soigne, ça soigne tout. Si ça soigne pas tout, ça soigne rien. Donc il y a un moment donné où il faut être crédible là-dessus. Et vous avez effectivement l'homéopathie, par exemple, c'est l'eau bénie l'ammonite de Lourdes, dont on estime que, parce qu'elle sort de la source de Lourdes, si vous en servez, ça va vous enlever votre maladie de peau ou je ne sais quoi. Il y a probablement des gens qui s'en servent pour enlever un psoriasis, et il y a probablement des gens chez lesquels ça marche. Mais parce que l'effet placebo est là, pas du tout parce qu'il y aurait un effet thermal.
La plus belle conversation de votre vie, c'était quand et avec qui ?
Bah, j'en ai eu des très belles, justement, avec mon vieux maître, Gérard Fagnon. J'en ai eu avec Pierre Billot, ce coiffeur qui m'a appris des choses importantes. Mais il y a eu aussi des conversations extrêmement silencieuses avec mon père dans son jardin potager. Les conversations qui m'ont construite sont les conversations les plus belles.
C'est quoi une belle conversation ?
C'est une conversation qui vous métamorphose. C'est une conversation qui fait qu'avant elle et après elle, vous n'êtes plus le même. C'est que l'échange, la discussion aura fait que vous aurez accédé à une parole qui vous aura aidé ou à partir de laquelle vous allez construire une existence. Les grandes conversations pour moi sont celles qui ont fait que, après la conversation, je me suis dit, de fait, j'ai appris des choses, mais des choses majeures. Pas une conversation qui fait que quelqu'un m'apprendra des choses sur son domaine. Ça, j'aime beaucoup aussi. Un chauffeur de taxi à qui je pose des questions, qui me raconte sa vie, sa licence, les problèmes avec les taxis Uber, etc. Je sors de son taxi, nous avons une conversation, j'ai appris des choses et j'en suis plus riche. Mais des conversations qui font que, après elles, vous n'êtes plus le même, elles sont rares dans la vie. Et quand on en a déjà eu deux ou trois, c'est déjà beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous.
Je rappelle que votre nouveau tome, le troisième de votre brève encyclopédie du monde, s'appelle Sagesse. Et puis on peut retrouver votre actualité et vous suivre sur votre site internet. Votre web TV se trouve sur l'adresse onfray.com. Je vous propose de clore cette conversation avec, c'est votre choix, Philippe Glass, le quatuor pour violon numéro 5. Vous venez d'écouter la conversation aujourd'hui avec Michel Onfray. Merci à Alexandre Lemierre pour la prise de son et la réalisation. Si vous souhaitez réécouter ce programme, il vous suffit de vous rendre sur le www.rts.ch/laconversation. Bertrand Bichot au micro, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, je vous laisse avec cette pensée de Francis Bacon. La conversation n'est pas un chemin qui conduit à la maison, mais un sentier où l'on se promène au hasard avec plaisir.
Avec Play RTS, accédez en tout temps à vos émissions. 120 secondes.
L'invité de Vincent Rayon. La 49e édition du WEF, le Forum économique mondial, se tient jusqu'à aujourd'hui à Davos.
Vos chaînes de radio se déplacent avec vous dans vos activités quotidiennes. Musique, news, résultats sportifs, débats politiques et culturels sont à votre disposition en direct ou en rattrapage sur notre application mobile.
Derrière les notes.
Un télescope, comment ça marche ? Réponse avec
CQFD. couleur 3, couleur 3.
Avec Play RT.